L'invité culture.
Katia Bnechtvili, c'est effectivement un dragon du piano. C'est un compliment dans la bouche. Je sais pas, je pense qu'elle a un toucher de... c'est ce qu'on disait de Prokofiev, c'est une broyeuse d'ivoire, quelqu'un qui peut à peu près tout jouer, et c'est toujours très impressionnant.
Bonjour Katia Bonatichvili.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes pianiste vous-même, une pianiste géorgienne de 29 ans, bientôt 30, très bientôt 30. On parle de vous comme de l'étoile montante du piano. Et donc Carol Beffa, le musicien que nous recevions il y a quelques semaines dans cette matinale du samedi, parlait de vous comme d'un dragon du piano, comme d'une broyeuse d'ivoire. Comment le prenez-vous ?
Pas très bien. Ça a du force, le dragon. C'est impressionnant, mais j'en suis sûre, si on est plus sensible envers, un dragon aussi peut être sensible. Donc il y a probablement ce côté qui est avec énormément du feu, qui impressionne au début, mais après, même les dragons, ils ont du cœur, je crois.
Ils ont du cœur, et effectivement, ils ont
merci
du feu.
Pour ce mot, en tout
cas. Et c'était un compliment dans sa bouche, il l'a bien précisé. Katia Bugnatti-Juilly, c'est drôle parce qu'en écoutant cet extrait, je vous voyais pianoter sur la table avec
oui.
vos doigts. C'est un réflexe
tout à fait naturel,
tout à fait naturel, oui. C'est ça, le piano. Et vous, ça ne fait qu'un corps.
Oui, c'est quelque chose de très naturel pour moi. En même temps, dans la tête, il s'est passé plein de choses parce que je voyais ce que je pouvais faire différemment. Ou je voyais aussi les compromis que j'ai dû faire parce que je jouais avec l'orchestre. Parce que quand j'enregistre toute seule, il y a une liberté totale et je suis le chef et aussi quelqu'un qui exécute. Mais avec l'orchestre, je vois aussi ce côté de mon caractère que je sais faire les compromis parce que j'aurais fait différemment en étant seule. Mais c'est beau aussi de faire les compromis des fois.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le premier mouvement du concerto numéro 2 pour piano et orchestre de Rachmaninov, qui est sur ce cinquième album que vous venez de sortir, Katia Bugnatti-Juilly, sous la direction de l'extraordinaire Paavo Järvi, que nous connaissons bien, qui a dirigé l'orchestre de Paris pendant longtemps. C'est votre cinquième album. Dans les précédents, vous aviez déjà joué Moussorgski, Ravel, Stravinsky, mais aussi Bach, Arvo Pärt, Tchaïkovski, Mendelssohn, Debussy, Brahms, Chopin, Liszt. On a du mal à avoir une unité, et d'ailleurs peut-être que vous ne souhaitez pas qu'il y ait une unité. Comment choisissez-vous les interprètes que vous jouez? En fonction de quoi?
Bah, justement, il y a de l'unité dans ces chaos et éclectisme, et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans le disque Motherland, c'est que j'ai commencé avec la musique baroque jusqu'à la musique de film d'aujourd'hui pour montrer que justement dans ces chaos et dans cet éclectisme, mais aussi dans la musique qui nous touche, qui nous fascine, qui est bouleversant, bah, on perd le sens du style et finalement il n'y a plus le sens de timing et de l'époque, et c'est juste la musique qui nous touche et le moment vécu. Donc c'est ça qui unit tous ces compositeurs, je pense. Après, naturellement, chaque compositeur a différents caractères et c'est ce que j'aime aussi, de trouver à travers ces compositeurs ces différences en moi et le contraire aussi.
L'émotion, ce qui nous touche, est sans doute le plus important quand on sait que Rachmaninov, et ce que vous dites de Rachmaninov, c'est que ce qui fonde sa musique, c'est le sentiment, ça tombe bien.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'autres choses aussi très cérébrales dans sa musique, mais qui est dans l'ombre. Parce que justement, c'est ça, Rachmaninov, tout ce qui est plus complexe et intellectuel et difficile à digérer et douloureux et tragique, c'est toujours dans l'ombre. Tout ce qui sort, c'est de la beauté et des moments sentimentaux qui nous touchent. Sa musique, si on va un petit peu déchiffrer le matériel musical, est très chargée des différentes voix, de polyphonie, qui est très complexe et difficile pour le pianiste, parce que je pense que plus on a capacité d'entendre tout, plus on voit des difficultés dans sa musique, parce qu'il y a certains qui regardent ça très facilement, même trop facilement, c'est-à-dire il apprend mécaniquement le jeu de compositeur qui est techniquement difficile, mais comme ils n'entendent pas tout dans leur cerveau, ça facilite la musique. Mais dès qu'on entend tout, la musique devient très complexe. Mais justement, dans ce labyrinthe de cette ligne très intellectuelle qui se développe indépendamment, il a une capacité de, vers la fin, dans ce labyrinthe, nous mener quand même vers les sentiments. Ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui travaillent dans la polyphonie, parce que ça reste souvent cérébral. Mais c'était le cas de Bach, parce que même si c'était polyphoniquement très complexe, ça nous touchait quand même toujours. Même si on considérait que sa musique était sacrale et c'était quelque chose qui était toujours lié avec l'Église, bah, je pense que c'est justement la musique qui est très proche de la terre et des humains. On peut avoir différentes opinions là-dessus. Donc sa polyphonie, ça touche. Et il y a Rachmaninov où sa polyphonie, on ne parle même pas de sa polyphonie tellement c'est considéré comme une musique qui touche énormément.
On en parle surtout d'ailleurs pour le concerto numéro 3 qui est sur ce disque aussi, Cassia Bugnatichvili. Mais ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, donc c'était le premier mouvement du concerto 2. Ce concerto 2 a été dédié à un docteur en guise de remerciement après 3 ans de dépression nerveuse de Rachmaninov. Est-ce que la musique s'en ressent et est-ce que il faut du coup le jouer avec des sentiments particuliers?
Oui, ça c'est l'information. Je vous remercie parce que souvent, pendant les interviews, j'apprends des choses que moi-même, je n'ai pas su parce que j'essaye d'éviter quand j'enregistre un disque, quand je travaille sur un compositeur concret, de connaître trop l'histoire autour de cette œuvre parce que ça dérange un petit peu de garder cette authenticité et regard fraîche sur cette œuvre. Donc oui, effectivement, dans numéro 2, on entend ces moments de déprime, ces moments difficile dans sa vie et traumatisme, certains traumatismes, mais ça nous mène quand même vers l'amour. Il y a quand même l'espoir et il y a quand même la beauté de l'amour. Il perd jamais l'esthétisme de sentimental ou amoureux, je dirais. Donc oui, probablement il a dédié ça à ce monsieur, le docteur.
Son docteur.
Mais il y a aussi une autre histoire derrière, c'est qu'on ne sait pas si c'est le docteur qui a aidé à surmonter ses obstacles ou si c'est sa fille dont il était peut-être amoureux. Donc on ne sait pas si c'était par mental qu'il était guéri ou par sentimental. C'est toujours question avec Rachmaninov.
Et du coup, avec quel sentiment faut-il jouer au moins ce début de concerto numéro 2?
Oui, parce qu'on dit que c'est le hypnose, c'est-à-dire mouvement de hypnose qui est au début. Pour moi, c'est la pensée, c'est une doute. Quand on doit choisir quelque chose, entre, je sais pas, deux choses essentielles peut-être, il y a cet accord et les basses. Donc c'est un moment très naturel de l'être humain. Quand on réfléchit, on ne fait pas d'abord l'acte, mais on a une pensée. Donc tout commence avec une pensée, et c'est une pensée qui balance d'un côté à l'autre, et on a un choix à faire. Mais après, dans l'agitation, dans l'acte, dans les moments cérébraux ou sentimentaux, on trouve le chemin pour s'en sortir. Mais au début, c'est un doute qui est exprimé dans une pensée.
On va écouter Cassia Bugnatichvili à un deuxième extrait du concerto numéro 2. Pour bien entendre, à l'écoute, et alors je vais le dire avec mes mots, vous alternez entre des plages très lyriques, des envolées très mélodieuse et volcanique, on revient au feu du début, et des retombées plus calmes. Donc comme si dans les tempi, il y avait vraiment de l'accélération et des ralentissements. On écoute un extrait. Accélère et puis ça ralentit. Ce mouvement ouais. de va-et-vient, c'est un jeu aussi sur les tempi.
Oui, il change d'ailleurs beaucoup de, il fait beaucoup de signes de changement des tempos et en général, je crois ces signes, ce n'est pas seulement de les comprendre directement ce qui est marqué, mais c'est aussi comprendre le sens dans la dramaturgie, c'est que le compositeur voulait exprimer, sinon tout sera trop fat et trop pareil, c'est-à-dire toutes les interprétations seront pareilles et les compositeurs aussi, d'un compositeur à l'autre, ça sera pareil aussi. Donc c'est très important d'avoir une lecture personnelle et approfondie, je crois.
Katia Bugnati-Juilly, on considère souvent ces deux concertos pour piano, le 2 et le 3 de Rachmaninov, comme des concertos très difficiles à jouer. Alors quand on vous entend mais qu'on ne vous voit pas, on imagine parfois des accords très très larges, donc des très grandes mains. Alors je suis en train de regarder vos mains, elles sont pas spécialement grandes. Est-ce que c'est particulièrement difficile pour vous de les jouer ou pas?
Non, si on a vraiment toutes petites mains, j'imagine que ça sera un peu difficile.
C'est pas votre cas non plus.
Oui, mais sinon, non, c'est faisable, c'est tout à fait faisable, surtout qu'avant Rachmaninov, même s'il avait des très grandes mains, il avait quand même d'autres compositeurs très virtuoses qui nous a permis aussi de s'approcher de Rachmaninov, quand même avec une certaine déjà expérience technique et de virtuosité, comme Liszt par exemple. Ou Brahms qui a une différente difficulté. Chaque compositeur a différentes difficultés où on ressent aussi physionomie de compositeur parce que ça représente leur, parce que eux aussi ils étaient compositeurs comme Liszt, Schumann, Brahms, ils étaient tous des compositeurs pianistes aussi. Et pareillement Rachmaninov. Donc on voit leur physique mais aussi leur caractère. Donc moi j'adore ça, j'adore découvrir différentes virtuosités à part naturellement la partie plus profonde, plus importante, mais aussi côté virtuosité chaque compositeur de différentes manières. Je trouve ça vraiment très, comme un grand défi, je prends ça.
Alors, un exemple de virtuosité, c'est le concerto numéro 3, dont on va écouter le début, le premier mouvement, avec vous. Katia Bugnati-Juilly, c'est le tout début du concerto numéro 3, mais les trois mouvements réunis font à peu près 40 minutes d'intensité musicale. Dans quel état sortent les mains après ces 40 minutes ?
Dans un état très généreux, je trouve, parce que je pense qu'on a l'impression d'avoir donné beaucoup, et surtout donné avec nos mains. Parce qu'il y a certaines œuvres qu'on joue et on a l'impression qu'on donne beaucoup énergétiquement, mentalement, émotionnellement, mais les mains font juste léger mouvement. Dans ce concerto-là, on a l'impression que tout ce qu'on donne émotionnellement Et mentalement, c'est vraiment à travers les mains et grâce aux mains qu'on peut faire ça. Il n'y a pas d'autre solution, d'autres possibilités d'exprimer tout ça. Donc, les mains ont une énorme importance.
Et ces mains, on les retrouve dans deux minutes après les titres du journal par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la veille du premier tour de l'élection présidentielle, le gouvernement a plié en Guyane. Il concède un peu plus de 2 milliards d'euros en plus pour le territoire d'outre-mer. Un accord de sortie de crise a été signé hier. Nous entendrons à 8h la satisfaction du président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. En Guyane, comme dans tous les outre-mer d'Amérique, on va voter en fait dès cet après-midi pour la présidentielle. En métropole, ouverture des bureaux de vote demain à 8h. Ils fermeront dans la plupart des communes à 19h au lieu de 18h. Et nous verrons que les instituts de sondage ne sont pas sûrs de bien pouvoir donner les résultats dès 20h précises. L'identité et le parcours de Karim Shurfi se précisent 36 heures après l'attaque des Champs-Élysées. L'assassin d'un policier avait passé 14 ans en prison. Il avait été surveillé pour des risques de passage à l'acte cet hiver, mais il n'avait jamais montré de signes de radicalisation islamiste. Enquête suivie par Florence Turm. Nous entendrons également Olivier Roy, le grand spécialiste de l'islam, pour qui la personnalité de Shurfi, comme celle des terroristes de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray ou de Londres, confirme les difficultés de Daesh à recruter des djihadistes structurés. Daesh forcé de revendiquer les actes d'individus isolés et instables. Que se passe-t-il au Venezuela, où une marche silencieuse est prévue cet après-midi à l'appel de l'opposition au régime chaviste? 11 morts jeudi soir dans une série de saccages et de pillages de magasins dans la capitale Caracas. Apparemment des émeutes de la faim plutôt que politique, nous dira notre correspondant sur place, Julien Gonzalez. Et puis la journée des libraires indépendants, c'est aujourd'hui, et l'on parlera de ces objets du désir que sont les livres dans le journal de 8h.
Beau programme qu'on retrouve complet à 8h donc, Camille Magnard. Mais pour l'heure, il est 7h32 sur France Culture. À suivre dans la prochaine demi-heure, la suite de notre entretien avec la pianiste Katia Bougnatichvili. À 7h45, la fabrique médiatique sur la viralité des images avec Marie-Pierre Subtil de la revue 6 mois et Lionel Charrier de Libération.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi à 21h, Continent Musique par Mathieu Conquet.
Émission jamaïcaine ce samedi avec les musiciens et chanteurs Dina Dillard. Je recevrai à leur côté la réalisatrice Hélène Lee. On fera une déambulation dans l'exposition Jamaïca-Jamaïca à la Philharmonie de Paris. Et puis reportage d'Élodie Maillot dans les collines de Kingston. Des cuisines à une terrasse transformée en studio à ciel ouvert.
Continent Musique, tous les samedis sur France Culture à 21h.
Big up France Culture.
À écouter aussi sur franceculture.fr.
On retrouve notre invitée, la pianiste Katia Bougnatichvili. On s'est quitté il y a deux minutes, Katia Bougnatichvili, avec un extrait du premier mouvement du concerto numéro 3.
Déjà.
Voilà le dernier mouvement. Bon, beaucoup plus de temps sur le disque, évidemment, que vous avez enregistré et qui paraît chez Sony Classique, passe entre le premier et le dernier. Mais voilà, cet album des concertos numéro 2 et 3 de Rachmaninov. Est-ce que ça vous arrive de vous écouter jouer?
Non, seulement quand je fais le montage de disque.
Ou quand on est
voilà,
ça,
radio,
dans une émission de radio.
Quand on me force de s'écouter, sinon non. Quand je fais le montage, oui, parce que j'ai fait tout le montage moi-même. C'est-à-dire j'ai fait tout le plan de montage moi-même, parce que cette dramaturgie que j'ai dans la tête n'est pas forcément la même que le producteur pourrait avoir. Et avec tout mon respect pour tous ces professionnels, j'ai envie de créer mon propre interprétation. Donc pendant le montage, on peut un petit peu changer ça si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, le plan de montage, donc je prends toute la responsabilité toujours.
J'aimerais qu'on parle de votre jeu, Katia Bougnatichvili, un jeu impétueux. Est-ce que vous seriez d'accord avec cet adjectif ?
Pas seulement impétueux, je crois. Mon jeu pourrait être, de nouveau j'utilise ces mots, éclectique, parce que ça dépend vraiment de la richesse de la musique, de compositeur,
de ce que vous jouez.
Exactement. Et aussi mon état d'âme en ce moment-là, dans le moment que je joue la musique. Donc c'est une possibilité, des fois je le suis, mais pas toujours, non.
Quand on vous voit jouer sur des vidéos, par exemple, ou en concert, pour ceux qui ont la chance de vous voir, c'est un jeu qui est très physique, presque organique, qui engage vraiment tout le corps, comme si vous formiez effectivement un corps avec... avec votre piano. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez commencé le piano à l'âge de 3 ans et que du coup, vous avez grandi avec le piano ou si c'est votre façon vraiment d'être complètement engagé dans le piano.
Oui, en général, tout ce que je fais, j'aime bien m'engager vraiment avec toute mon énergie, avec tout mon être. Donc, c'est forcément mon individu qui ne me laisse pas faire autrement que comme ça. Après, la façon de mon jeu est... perception du public, de moi en étant sur scène, ça change d'un moment à l'autre parce que ça dépend de périodes dans ma vie aussi. Il y avait une période quand je n'ai bougé pas du tout parce que je cherchais quelque chose d'autre dans le jeu et après j'ai senti que j'avais besoin de cette intensité, un contact très proche avec l'instrument et ça change de répertoire aussi, c'est-à-dire je ne serais pas aussi engagée physiquement dans le concerto de Mozart que dans le concerto de Rachmaninov par exemple parce que ça demande différentes légèretés aussi dans l'expressivité Mozart que Rachmaninov. Donc ça dépend beaucoup, langage, body language, ça dépend beaucoup de compositeur et de l'œuvre que je joue aussi. Ça aussi, ça peut changer d'une interprétation à l'autre.
Vous parlez de la réception du public. Ce public et les critiques compris ont pu souvent parler de votre jeu comme d'un jeu suave. Je reprends les mots que j'ai pu lire. Aguicheur, sensuel. On parle de votre teint mat et de vos lèvres intensément rouges, de vos robes...
C'est pas le public, ça, c'est peut-être la presse.
Non, c'est plutôt la presse. Oui. Vous parlez de la réception du public et moi, je vous parle de la critique. Du... des critiques qu'on peut lire dans la presse. Mm-hmm. On parle de vos robes glamour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous choque? Est-ce que vous recherchez ce genre de remarques? Ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui s'adresse à une femme qui fait juste attention à son physique, mais que si on parlait d'un homme au piano, on n'en parlerait pas dans ces termes?
Ça, de toute façon, ce que vous avez à la fin, c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a certainement un sexisme très fort aussi aujourd'hui. Ce n'est pas aussi grave, parce que ça reste juste un mot et ça reste juste dans la presse, en décrivant mon interprétation, mon style, donc ça ne peut pas m'apporter quelque chose qui peut... me déranger pour s'épanouir comme une personnalité. Et ce n'est pas aussi grave que ça se passe dans certains pays où les femmes n'ont aucune possibilité à s'exprimer. Mais naturellement, ça reste comme du sexisme légère, mais c'est quand même, c'est là. Mais après, je pense, si on parle de la sensualité dans le cadre de toute l'interprétation de l'œuvre, là, dans ces cas, et on perd l'objectivité, je pense, il y a des moments sensuels dans la musique aussi, parce que les compositeurs ont aussi envie de, dans certains endroits, exprimer une sensualité. Mais si ça reste pour toute l'œuvre, pour tous les compositeurs, là, je crois qu'ils sont peut-être un peu trop subjectifs, parce que ce qui peut-être donnait l'impression de la sensualité, c'est justement capacité d'exprimer toutes les émotions très crues, dans la façon très nue et très crue, c'est-à-dire d'être complètement ouverte émotionnellement, ça pourrait créer un petit peu un sentiment de vulnérabilité et peut-être de la sensualité à cause de ça. Mais après, apporter ça jusqu'aux robes et style, ça je crois c'est un peu exagéré et trop subjectif.
Bon, en même temps, c'est vrai qu'il vous arrive, Katia Bougnatichvili, de poser, d'avoir des images de vous qu'on peut tout à fait trouver, puisqu'elles sont tout à fait accessibles sur Internet.
Oui, mais ça c'est
Internet,
des images, ça c'est
qui
pas
sont
le
des
jeu
images
de la musique.
Très féminine, très glamour, très star de cinéma, qui plaît d'ailleurs beaucoup aux hommes.
Mais ça, c'est
souvent
les
qui
photos.
Peut plus énerver les femmes.
On parle de presse quand on parle de moi sur scène, mais si on parle de mes photos, oui, il y a certainement des photos où j'ai l'air plus féminine et dans les autres aussi où je m'habille en homme et j'ai Je fais une personnage de Faust où je suis transformée en homme aussi. Ces côtés-là, on ne connaît pas, on ne s'intéresse pas non plus. Peut-être, mais ce que je veux dire, les photos pour les magazines de mode et les photos de la pochette des disques, c'est déjà deux choses différentes. Et surtout, c'est deux choses différentes de me voir dans les magazines de mode et me voir sur scène. Ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger l'interprétation musicale avec les photos que peut-être je pourrais faire dans les magazines comme de la mode, par exemple. Ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger. C'est ce que je voulais dire. Si on parle de la sensualité séparément, d'accord, de ma féminité séparément, d'accord, mais si on parle de la sonate de Liszt et dire dans ce moment-là que je suis sensuelle en jouant la sonate de Liszt qui dure quand même 30 minutes, qui est une œuvre majeure de notre répertoire, une des œuvres majeures et qui est très complexe et très difficile intellectuellement, et je fais quand même, j'ai des devoirs à faire et je le fais, je pense, d'une façon assez convaincante. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. Là, c'est là que ce n'est pas très élégant de parler de la sensualité tout le temps. Il y a un côté sensuel chez Marguerite comme personnage de Faust, il y a ce moment-là, mais tout l'œuvre, non.
Est-ce que ce genre de remarques, de critiques, de discussions même, vous l'avez, Katia Bougnati-Juilly, ailleurs qu'en France?
Oui. On a.
Ah, c'est pas propre à la France, alors?
Non. En France, il y a, surtout dans la génération, dans ma génération un peu plus âgée, il y a un certain respect pour ne pas mettre mal à l'aise la personne, pour ne pas mettre dans une situation un peu sexiste et désagréable. Donc ça, mais je parle de vraiment génération plus jeune. Les gens plus âgés de la télé ou etc., ils ont ce côté l'humour un peu sexiste qui n'est pas dérangeant forcément, mais c'était différent à l'époque. Dans les années 80, les femmes étaient plus des femmes un peu bohèmes et elles devaient être très belles par exemple au cinéma, et moins d'intellectualisme, disons. Aujourd'hui, on peut être très féminine mais parler des choses très sérieuses aussi. Je crois que c'est pour ça que notre génération, ils respectent plus pour ne pas devenir sexiste, disons. Mais en France, non. En France, on aime esthétique en général, la beauté. Et en France, en général, je crois que la beauté ne dérange pas l'intellect. Ça, c'est la libre esprit française que j'adore d'ailleurs. C'est pour ça que je vis aussi à Paris. L'un ne dérange pas l'autre. Et ça, c'est très français. J'admire ça énormément. Dans l'autre pays, ça peut être... ça dépend de pays aussi, ça dépend. Mais dans le sexisme, ça se montre différemment aussi. Et les gens qui se battent contre le sexisme, ils ont différents arguments aussi. En France, c'est plus mélangé et ça a une certaine charme, disons. Et ce n'est pas dérangeant. Sexisme est dérangeant, mais la façon qu'on peut parler de l'esthétique, c'est-à-dire la beauté et l'intellect, mélanger les deux, ça a une certain charme même.
Katia Bougnati-Juilly, vous nous avez fait le plaisir et l'honneur d'ailleurs d'accepter de jouer quelque chose pour nous. Nous sommes dans le studio 108 de la Maison de la Radio. Il y a un piano, mais bon, vous avez joué quelques minutes avant. Est-ce que vous déplacez en général votre piano? Est-ce que vous avez un piano à vous sur lequel vous aimez jouer, ou est-ce que vous vous adaptez à tout ce qu'on vous offre, même en concert?
Moi, j'aime bien découvrir les nouveaux instruments, les nouveaux pianos, comme j'aime bien découvrir les nouvelles personnalités dans ma vie. Donc, non, c'est une découverte chaque fois.
Il est bien celui-là, vous l'avez testé?
J'aime beaucoup, j'ai testé, j'ai bien aimé. Et ça ne sera pas de répertoire des dragons cette fois-ci, ça sera plutôt la musique plus calme, plus matinale.
C'est-à-dire, c'est quoi?
Handel Menuet, en sol mineur.
On vous écoute, allez vous installer. Merci. Thank you. Magnifique. Merci beaucoup, Katia Bugnati-Juilly. Et merci d'être venue à la matinale du samedi.
Le choix de la douceur pour terminer. Retour au studio 1. Le disque des concertos 2 et 3 de Rachmaninov par Katia Bugnati-Juilly est disponible chez Sony. Elle sera en tournée en Allemagne jusqu'à la fin du mois d'avril. Puis on la retrouvera pour une série de concerts en mai avec le violoniste Renaud Capuçon à Rolle, à Glorus en Suisse, à Grenoble, à Avignon cet été en juillet, à Égalières, à Royan, à Biarritz ou encore à Mougins bien sûr. Toutes les dates seront sur notre site internet.